Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio TerraZen et vous écoutez l'émission Histoire du soir avec Olivier. Et ce soir, donc une émission d'histoire bien sûr, et ce soir, je vous emmène avec moi sur la piste de l'Arche perdue. De l'Arche d'Alliance, un objet issu tout droit de l'Ancien Testament, de la Bible donc, hein, composé comme vous le savez de l'Ancien et du Nouveau Testament, et dont le nom exact, donc pour Arche d'Alliance, car tel est son nom, c'est Aaron à Edout. Ce qui veut dire en hébreu arche du témoignage. Donc littéralement, c'est le coffre qui, selon la Bible, contient les tables de la loi, les 10 commandements donnés à Moïse sur le mont Sinaï. Autrement dit, on va parler ce soir d'un objet tout à fait sacré, un objet tout à fait, central, dans, d'une part, la culture religieuse du judaïsme, bien sûr, et puis, bien sûr, quelque chose qui va nous entraîner ce soir beaucoup plus loin, qui va nous entraîner sur tout simplement ce que l'on pourrait appeler la quête des fameux célèbres artefacts, archéologiques, mythiques, qui jonchent un peu toute l'histoire de l'archéologie moderne, si tant est qu'on peut donner comme définition ce qu'est ce temps de l'archéologie moderne à partir du moment où il apparaît au XIXe siècle, avec notamment les redécouvertes tant à la fois des pyramides, mais aussi plus récemment, après la guerre de 14-18, des lieux tous plus mystérieux et fascinants liés à l'Amérique précolombienne, aux civilisations aztèques, mayas. Je pense par exemple au Machu Picchu, qui était aussi quelque chose de mythique, cette cité totalement mythique, et qui, pourtant, a été retrouvée à partir du moment où on a pu commencer à la survoler, et qui est devenue une réalité. Alors ce soir, évidemment, on est au cœur d'un objet central qui, jusqu'au moment où je vous parle, ce soir, le 26 novembre 2015, eh bien, tout simplement, on ne l'a pas retrouvé. C'est un objet qui jonche notre imaginaire. Des films hollywoodiens dont on reparlera en fin d'émission, parmi les plus anciens, notamment Les 10 commandements de Cécile B. 2000, ce film qui raconte, et on va en parler largement là ensemble, l'exode du peuple juif qui quitte l'Égypte du puissant pharaon Ramsès II, hein, pour justement traverser la mer Rouge, hein, et ensuite traverser le Sinaï, hein, et se retrouver donc vers ce qu'on a appelé la Terre Promise. Hein. L'Arche d'Alliance, hein, l'Arche de Moïse, hein, si vous voulez, est évidemment au cœur, hein, pourrions-nous dire, de cet épisode particulier, hein, de la Bible. Ça, c'est déjà un premier point fondamental. Alors, en préparant cette émission, je me suis interrogé, j'ai discuté bien sûr avec tout un tas de personnes qui m'entourent, savoir un peu auprès d'elles ce que pour elles, pour ces personnes, l'arche pouvait signifier. Première chose, quand on parle de l'arche et de la Bible, de l'Ancien Testament, ce qui vient à l'esprit, hein, bah, c'est l'arche, évidemment, l'arche de Noé. Hein. Noé, c'est bien avant, hein, si, dans ces temps bibliques, encore plus anciens. Hein. L'arche de Noé, c'est vraiment un bateau, hein, sur lequel Noé, justement, inspiré par Dieu, va avoir l'idée, d'une part, de se réfugier avec sa famille, hein, et ensuite d'y mettre tout ce que l'humanité, hein, comporte d'animaux, de plantes, etc. Bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir redémarrer une nouvelle humanité après le déluge, hein, que Dieu a décidé pour punir les hommes de leur, comment dire, de leur folie et de leur, comment dire, de leurs audaces diverses. Alors en effet, bien sûr, il ne s'agit pas de cela, il s'agit d'une autre arche, hein, c'est-à-dire un coffre, hein, dans lequel vont se retrouver ces fameuses tables de la loi. Et néanmoins, le parallèle, je pense, on peut dire, en introduction de cette émission, est intéressant. Puisque, en effet, l'Arche de Noé, hein, ce bateau, constitue quelque part une première alliance, hein, entre Dieu, hein, et, comment dire, les hommes qu'il a choisis, qui devraient, si vous voulez, survivre, hein, au déluge. Hein. Donc, ça constitue, ce bateau, l'Arche, hein, l'Arche, le navire de Noé, un peu comme étant, en quelque sorte, un premier accord avec le Très-Haut, pourrions-nous dire. Et puis l'Arche d'Alliance, elle-même, hein, ça c'est autre chose. Vous dites tout à l'heure qu'en hébreu, hein, on la titule Aaron à Edout, hein, Arche du Témoignage. Hein. Là, il s'agit évidemment d'un autre âge, pourrions-nous dire, de l'Ancien Testament. Hein, c'est-à-dire cette alliance, hein, que Dieu va former avec son peuple, hein, le fameux peuple hébreu, hein, pour l'aider, hein, à quitter, guidé par Moïse, hein, quitter l'Égypte, hein, où ce peuple est asservi, pour pouvoir, hein, retourner vers le lieu, la terre justement promise, hein, par Dieu aux hommes, hein, qui est la terre promise. Hein, c'est-à-dire l'actuelle zone recouverte par l'actuel État d'Israël, hein, au Proche-Orient. Tout le monde l'aura bien compris. Cette arche, donc, justement, arche du témoignage, arche d'alliance, est censée, quelque part, hein, eh bien, renouveler cette alliance entre Dieu et son peuple. Hein. C'est-à-dire que, tout simplement, hein, cette arche, eh bien, est censée, en tout cas, renfermer l'alliance, précisément, hein, que Dieu va faire avec son peuple, hein, au travers des 10 commandements, c'est-à-dire, tout simplement, de la loi. Hein, de la loi qui va régir les relations entre le peuple élu et, évidemment, Dieu. Ces fameux 10 commandements dont on reparlera tout à l'heure et qui sont censés effectivement être conservés dans cette boîte, hein, que l'on appelle l'arche d'alliance ou l'arche perdue. L'arche perdue, c'est un euphémisme, c'est-à-dire qu'il s'agit bien sûr là d'évoquer, hein, bien sûr, un certain nombre de connaissances cinématographiques récentes. On sait très bien que le film Indiana Jones, le premier en tout cas de cette histoire, de cette quête, de cet archéologue mi-professeur d'un côté, mi de l'autre côté, véritable Tomb Raider des années 50, pourrions-nous dire. Hein, donc là, évidemment, il s'agit de l'arche perdue, parce que cette arche, bah justement, hein, mes amis, on va le voir ce soir, si elle est décrite de façon très précise dans la Bible, y compris éventuellement des endroits où elle peut se trouver, on va aussi en parler, hein, bah, jusqu'à nouvel ordre, on l'a pas retrouvée. Donc elle est effectivement perdue, perdue sans doute dans des lieux où elle est censée avoir été vue, pardon, c'est-à-dire au Proche-Orient, hein. Mais néanmoins, cette arche, quelque part, n'a d'une part effectivement jamais été retrouvée, mais la question aussi c'est de savoir est-ce qu'elle a tout simplement existé. Hein, ça aussi, c'est un autre débat. Alors, je crois que pour commencer, il faut revenir au texte, et je crois que dans toute bonne approche d'historien, hein, on est amené à toujours revenir vers les textes. Hein, et voici la façon dont elle est décrite dans l'Ancien Testament. Hein, chose qui est facile, hein, à retrouver, hein, et dont je vais vous lire quelques petits extraits. Ils feront dans une arche en bois d'acacia, longue de 2 coudées et demi, large d'une coudée et demie, haute d'une coudée et demie. Tu la plaqueras d'or pur, tu la plaqueras au dedans et au dehors, tu l'entoureras d'une moulure en or. Tu couleras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les placeras à ses 4 pieds, 2 anneaux d'un côté, 2 anneaux de l'autre. Je continue un peu plus loin. Et tu feras 2 chérubins en or, tu les forgeras aux 2 extrémités du propriatoire. Fais un chérubin à une extrémité et l'autre chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins en saillie sur le propriatoire. À ses 2 extrémités, les chérubins déploieront leurs ailes vers le haut pour protéger le propriatoire de leurs ailes. Ils feront face et ils regarderont vers le propriatoire. Tu placeras le propriatoire au-dessus de l'arche et dans l'arche, et tu placeras la charte que je te donnerai. Donc tout ça, bien sûr, il s'agit de commandements, hein, bien sûr, donnés par Dieu, hein, c'est-à-dire que c'est un message très fort, hein, cette arche est tout simplement censée avoir été, aujourd'hui, dirions-nous, une question de design, hein, dessinée par Dieu lui-même, hein, un peu une forme de intelligent design, pourrions-nous dire. Alors ensuite, dans les textes, eh bien, évidemment, cela va être détaillé un peu plus. Alors, d'une part, elle est, cette arche, dotée d'un pouvoir mystérieux. Voilà ce qu'on trouve un peu plus loin. Que l'arche était accompagnée d'une nuée, que son pouvoir était immense, que sa taille était réduite, elle tenait dans un coffre, que son poids était proche de 160 à 200 livres, puisqu'il fallait 4 hommes pour la porter, donc quelque chose qui était lourd, peut-être effectivement dû à l'or, hein, dont elle est constituée, et que sa nature physique interne est inconnue, mais on trouve un texte décrivant un risque mortel à son contact. Bref, il s'agit vraiment d'un objet surnaturel, hein, donc objet à la fois sacré, hein, on l'a vu, puisqu'il doit contenir au minimum les fameux 10 commandements, hein, c'est-à-dire la loi, hein, qui unit Dieu et son peuple, quand même, ça n'est pas rien. Hein. Et puis, on le voit bien, en plus d'être un objet précieux, en or, avec des chérubins, hein, c'est-à-dire en fait des sortes, qualifierait ça aujourd'hui, de petits êtres, de petits angelots, hein. Eh bien, en plus de cela, elle semble posséder un pouvoir, hein, tout à fait inédit, tout à fait mystérieux. Alors, évidemment, dans le livre des rois, on nous indique que, ceci, il n'y a rien dans l'arche, sinon les deux tables de pierre déposées par Moïse à l'Horeb. Ce récit de l'auteur, deutéronomiste, suggère, hein, je cite, que les deux tables remplacent peut-être deux pierres sacrées, comme on le trouve aussi dans des coffres bédouins pré-islamiques. Et enfin, afin de terminer ce propos introductif, pourrions-nous dire, eh bien, il faut savoir que de common knowledge, comme diraient les Anglais, l'arche en question est surtout censée, d'une part, en effet, contenir cette fameuse loi des 10 commandements, mais surtout, toutes les versions de l'Ancien Testament, si vous voulez, concordent, pour nous dire que quand Moïse a reçu les 10 commandements en haut du mont Nebo, qui s'inscrivent, on le voit dans le film de Cécile B2000, en lettres de feu sur la pierre, bien qu'entre-temps, le peuple d'Israël a perdu sa confiance en Moïse, parce que la fuite hors dehors d'Égypte est interminable, parce que le peuple doute de savoir où est cette terre promise, est-ce qu'on va jamais y arriver, Et, hélas, il est gagné, par une sorte de folie collective, tout ça on le voit dans l'Ancien Testament, surtout dans des films, le dernier film de Ridley Scott sur Moïse, je crois, est tout à fait explicite, de la corruption du peuple d'Israël qui va se forger des idoles, païennes, et va se corrompre jusqu'à plus possible. Et c'est là que Moïse descend avec les tables de la loi, entre en colère face à ce spectacle, et dit que, eh bien, ceux qui n'ont pas, vécu par la loi, périront par la loi, il prend les tables et les brise. Et la tradition nous dit que, enfin en tout cas une tradition, car bien sûr il y en a plusieurs, je souhaite préciser ce soir qu'on est dans un sujet extrêmement complexe, et que donc bien sûr, si je puis dire, la petite présentation historique que je fais ce soir en une heure n'engage que moi bien sûr, ça va de soi, que justement ce sont en fait les restes de cet objet sacré, de ces tables de la loi, qui serait donc tout simplement conservé dans l'arche. En tout cas, ce qui semble certain, en tout cas, c'est que on ne voit pas apparaître l'arche avant, dans la chronologie, pourrions-nous dire, de l'Ancien Testament, avant la fuite d'Égypte. C'est vraiment à ce moment-là, au moment où Moïse va mourir peu de temps avant d'atteindre la terre promise, rappelez-vous, parce que il a tué un homme, et donc comme il a tué un homme, Moïse, eh bien en effet, l'Éternel, Dieu, Yahvé, tout ce que vous voulez, lui a dit tu ne pourras la voir que de loin, cette terre promise, c'est à ce moment-là, effectivement, que le peuple d'Israël, qui va s'installer de nouveau dans cette région, va en effet, pouvoir mettre cet objet sacré qu'est l'arche, dans le Saint des Saints du fameux temple de roi David, qui va être construit à Jérusalem. Alors, entre-temps, j'ai eu, pour préparer cette émission, deux questions, dont une qui m'est posée directement par Cédric, et Cédric, je te remercie de m'avoir averti qu'une question était posée, car il faut que j'interagisse avec la page. Je précise que sur la web Radio Terra Zen, vous pouvez toutes et tous interagir en direct avec cette émission, m'envoyer des questions et j'y réponds. Alors Cédric, je lis ta question en direct, posée à 21h11. As-tu une idée de où pourrait se situer cette Arche d'Alliance? Alors justement, précisément, ça fait partie des questions auxquelles je vais essayer de répondre ce soir. C'est que justement, on va explorer ensemble plusieurs pistes de où pourrait se trouver l'Arche d'Alliance. Parce que, comme je viens de le dire, on a au moins un repère, si je puis dire, géographique, qui est que dans la période qui suit l'Exode, la période qui suit l'Exode, le peuple d'Israël s'installe effectivement en terre promise. Il va y avoir Jérusalem comme capitale de ce royaume. Il va y avoir un premier temple qui va être le temple du roi David, et que ce temple est censé, parmi les trésors qu'il va du peuple, les trésors sacrés du peuple juif qu'il va renfermer dans son sein des saints justement cette fameuse arche, puisqu'elle est le symbole de l'alliance entre Dieu, entre Yahvé et son peuple. Alors, dans un premier temps, il va y avoir plusieurs pistes. Et la piste la plus connue, c'est de se dire, et on va l'évoquer tout à l'heure, que cette arche, elle était dans le temple de David, qui ensuite est détruit, elle est restée, parce qu'on l'avait cachée, dans le deuxième temple qui est construit, qui est le temple de Salomon, temple de Salomon qui est la réplique du premier temple de David, ce fameux temple de Salomon, qui a surtout cette particularité, c'est qu'il est connu, pour nous, occidentaux, dans notre culture historique, parce que il va être pillé plusieurs fois par les Romains, au début de l'ère chrétienne, que les Romains vont le piller, le détruire ensuite, en dominant, en transformant Israël en une province de l'Empire, la Judée. Les trésors du temple sont embarqués par l'empereur Titus, qui s'empare de tout cela, on va en parler tout à l'heure, et ramené dans le temple de Saturne sur le forum romain où se trouvait le trésor, d'une part d'abord de la République et de l'Empire ensuite. Temple de Saturne, qui ne sera pillé lui-même et totalement dépouillé de ses trésors qu'au IVe siècle de notre ère, c'est-à-dire au moment de la conquête par les Visigoths de Rome. Donc ça laisserait penser que ce sont les peuples barbares, dits barbares, qui se seraient emparés de ce qui restait du pillage du début de l'ère chrétienne, on fait 400 ans auparavant, et notamment du temple de Salomon. Sauf que le problème, c'est que justement on ne mentionne pas l'arche. Quand on voit les bas-reliefs de l'arc de triomphe de Titus, qui est sur le forum romain, et qui, petit arc de triomphe, qui représente justement ce haut fait de guerre qui est d'avoir soumis cette énième rébellion, ça a toujours été, vous le voyez, une région historiquement agitée, même il y a 2000 ans, c'était déjà une région agitée, cette région de Judée, Palestine, Israël, etc. On y voit la menorah, c'est-à-dire la fameuse grande lampe à cette branche du temple, on y voit un certain nombre d'artefacts, mais on ne voit pas, à proprement parler, l'arche d'alliance. Ce qui laisse à penser, comme d'autres sources vont le mentionner tout à l'heure, on va en parler, elle aurait disparu ou aurait été cachée, peut-être, en moment où le premier temple est détruit et que le second va être construit plus tard. Ce qui laisse, et ça va me permettre de répondre définitivement à ta question, Cédric, ce qui laisse à penser que une des hypothèses dont je vais parler ce soir est peut-être, je dis bien peut-être, la vraie, celle qui fait état de fouilles archéologiques extrêmement compliquées qui ont été menées à Jérusalem, et d'un archéologue qui peut-être effectivement aurait réussi à identifier quelque chose à un endroit spécifique de Jérusalem, encore une fois cela demande à être confirmé. Alors, suivons à présent les quelques pistes, hein, les quelques parcours. Alors, je précise que j'ai également une autre question, posée cette fois-ci par Ingrid, et qui me demande, je pense qu'il s'agit d'une vraie fausse question, comme on dit, qui me demande pourquoi l'Arche d'Alliance, donc quand elle est représentée dans le film Les Aventuriers de l'Arche Perdue, de Indiana Jones, et représentée dans un hangar avec tout un tas d'autres secrets bien gardés des États-Unis. Alors ça, évidemment, il s'agit d'un film de fiction, hein, mais je vous renvoie quand même à la fois à l'Arche d'Alliance, aux Aventuriers de l'Arche Perdue, puis également au dernier Indiana Jones, hein, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, donc avec cette fois-ci qui se passe en Amérique latine, et sur peut-être la nature même de ce qu'est l'Arche, on aura l'occasion d'en reparler dans sans doute vers la fin, hein, de notre émission. Ingrid, je ne t'oublie pas. Alors, donc, ces différentes pistes, quelles sont-elles ? Alors, ce qui est certain, c'est que l'Arche, effectivement, bon, apparaît au moment de l'Exode, ça on en est sûr, on l'a dit largement, et quand le peuple d'Israël pénètre dans le pays de Canaan, eh bien, elle va servir, hein, manifestement, à faire tomber les murs, hein, d'une ville, comment dire, rebelle, qui s'appelle Jéricho. Alors là, c'est assez intéressant, parce que cela nous renvoie à ce dont je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'Arche n'est pas forcément qu'un coffre sacré, renfermant soit les 10 commandements, soit les 10 commandements brisés en 1000 morceaux par Moïse, hein. C'est aussi manifestement une espèce d'arme, hein, une espèce d'objet qui possède un pouvoir, comment dire, ou une façon, par la transmutation de cet objet qu'est l'Arche, de diffuser un pouvoir divin qui permet quand même de faire tomber des murailles d'une gigantesque ville. Alors sans doute là, faut-il voir, hein, pardon, un symbole, hein, c'est très probable. Mais néanmoins, c'est quand même assez instructif. Alors suite à cela, eh bien, donc, les Israélites donc, s'installent à Gilgal, puis à Silo, puis à Kiryat Yaramin, je passe assez rapidement, et enfin ils sont conduits à Jérusalem par le roi David. Et David, eh bien, reçoit directement, hein, si je puis dire, une commande, hein, du Très-Haut, hein, de construire ce fameux temple, hein, cette fameuse maison, hein, ce temple qui permettra au peuple d'Israël de communiquer, hein, avec Dieu. Et ça va donc être toute l'aventure du fameux temple, hein, du premier temple, hein, premier temple donc dans lequel, effectivement, dans le Saint des Saints, eh bien, on placera l'Arche, justement. Donc, vraiment, grand symbole. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir de tout cela ? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce premier volet, en fait, concernant l'Arche, qu'on continue de suivre à la trace, en tout cas, du moins, dans l'Ancien Testament. On n'en perd pas, là, le chemin, en tout cas, pas encore. C'est qu'évidemment, moi évidemment d'un point de vue entre guillemets scientifico-historien, je serais tenté de dire, hein, qu'il s'agit bien sûr d'un symbole avant tout, hein, un symbole dans lequel on a mis beaucoup de choses et surtout toute la symbolique de ce fameux exode. Aujourd'hui, les historiens, hein, ont à peu près réussi à comprendre pourquoi dans la Bible on dit que le peuple d'Israël a pu franchir, hein, ce bras de mer là, dont Moïse aurait écarté les flots, parce que à peu près en reconstituant, hein, l'histoire climatique, hein, si vous voulez, de la période, hein, et là on est dans l'à peu près, parce qu'évidemment ce sont des distances historiques extrêmement lointaines, hein, eh bien, dans cette, comment dire, dans ce contexte-là, hein, eh bien, on comprend qu'à un moment donné, il y a eu un assèchement, en effet, hein, temporaire, hein, ou une baisse du niveau de la mer, qui a fait que, effectivement, le peuple hébreu a pu franchir, hein, ce bras de mer pour ensuite partir de l'autre côté en direction de la terre dite promise. Alors évidemment, ceci nous éloigne beaucoup de Cécile B2000, de son film des années 50, hein, où Moïse écarte les eaux avec la seule puissance de l'Éternel, hein, qui passe dans son corps lui-même. Hein. Bon, encore une fois, et c'est ça qui est assez intéressant avec l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est qu'on peut constamment faire des liens entre une certaine forme de réalité historique et bien sûr des événements, en effet, qui ont pu être instrumentalisés probablement au service de l'écriture, évidemment, d'un texte jugé comme fédérateur et fondamental de tout un peuple. Hein. C'est tout à fait évident. Et puis voilà que, bon, je continue mes petites pistes. Seconde piste, bah, voilà que l'arche, qui était dans le premier temple, hein, eh bien, va disparaître. Alors, chronologiquement, essayons de reconstituer un peu quelque chose. Hein. Le premier temple est censé remonter autour de 1000 ans avant notre ère. Hein. Et avoir été détruit au VIe siècle en 587, moins 587, hein, simplement parce que à ce moment-là, eh bien, le royaume d'Israël, comme beaucoup d'autres pays de la région, est tout simplement envahi, hein, par des puissances étrangères, des ennemis, hein, qui font que bah, le temple est détruit, brûlé, etc. Et c'est là que, effectivement, les pistes vont diverger. La paix revient en 516 avant notre ère, et là, ça va être la construction du deuxième temple, hein, celui qui va être là jusqu'en 70 de notre ère, hein, le temple dit de Salomon. Hein, pourquoi ? Parce que c'est le roi Salomon qui donc l'aurait reconstitué, si vous voulez. Hein, et donc dans ce temple-là, qui est censé être à l'identique, eh bien là, là effectivement, fort mystérieusement, les sources divergent. Elles divergent pour nous dire que tantôt, eh bien, l'arche s'y trouvait, et dans d'autres cas, non. Et c'est là qu'il y a une piste assez intéressante, c'est que justement, probablement si elle était dans le premier temple, elle a été cachée au moment du pillage, et que dans le deuxième temple, eh bien, s'il y avait une arche dedans, ça n'était peut-être pas celle d'origine, mais évidemment une copie. Car là, je vous renvoie, chers amis, à l'iconographie de l'arche. Hein. J'ai mis en annonce sur la page Facebook, hein, donc que vous connaissez toutes et tous, une petite photographie représentant l'arche d'alliance telle qu'elle est représentée dans l'église Saint-Roch à Paris. Hein. Et il faut bien comprendre que ce grand symbole de l'Ancien Testament va être repris à satiété, hein, dans un nombre incroyable d'édifices religieux et beaucoup d'églises chrétiennes, catholiques, hein, qui vont le représenter, hein, abondamment. Il y a un nombre incroyable de représentations de l'arche dans des églises à Paris et partout en France, dans beaucoup d'endroits. Hein. Alors, c'est là que la piste, effectivement, peut être la plus sérieuse. Hein. Et de se dire, piste numéro 1, que eh bien, au VIe siècle avant notre ère, elle a été cachée et qu'elle n'aurait pas bougé de là, hein, jusqu'à ce que dans les années 2000, et on en parlera tout à l'heure, eh bien, un archéologue croit à un moment donné l'avoir trouvée. Mais vous connaissez aujourd'hui toutes et tous la situation de la ville de Jérusalem, hein, divisé en différents quartiers, la situation problématique et compliquée, hein, de l'État d'Israël, hein, et des territoires occupés, et du problème avec les Palestiniens, etc., etc. Je ne rentre pas dans ces détails-là ici, puisque bien sûr, c'est pas le propos, hein, mais que bien sûr, vous savez que toute fouille archéologique, hein, à Jérusalem est quelque chose d'extrêmement compliqué. Je vous rappelle, hein, à titre anecdotique, et c'est pas le sujet de ce soir, mais toute la polémique, toutes les polémiques qu'il y a pu avoir, hein, il n'y a pas si longtemps, hein, sur le fameux moment où on aurait retrouvé le tombeau de Jésus. Hein, rappelez-vous. Hein. Alors parce qu'il y a évidemment une telle pression sur les artefacts bibliques, pourrions-nous dire, hein, à Jérusalem et dans toute la région, bien sûr, que dès qu'on trouve quelque chose, c'est pas tous les jours les fameux manuscrits de Qumran ou les manuscrits de la Mer Morte. Hein. Cela était tout à fait vrai. Hein. Mais il y a, hélas, hein, un tel business de l'artefact que bien souvent, effectivement, on risque de se faire avoir tout simplement par des gens qui, hélas, cherchent à tirer profit en faisant des faux, hein, ni plus ni moins. Alors, peut-être est-ce là la petite faille qui nous permettra d'avoir un espoir, hein, pour reprendre ta question Cédric, de tout à l'heure, d'effectivement un jour pouvoir remettre la main sur cette fameuse arche. Hein. Mais ça veut dire qu'on ne l'aurait pas récupérée. Hein, après la destruction du premier temple, elle serait restée cachée depuis le 6e siècle. Hein. La deuxième piste, qui est évidemment celle qui nous mène, si je puis dire, dans ce rêve qui est souvent, que sont les légendes du haut Moyen-Âge. Hein. Et là, je sais que beaucoup de personnes qui écouteront cette émission partagent ces sensibilités hein, que l'on a tous un peu, je crois, en commun sur les mystères liés aux Templiers, aux Cathares, etc. Et à, si je puis dire, toute une partie de la région des Pyrénées et de l'Aude, hein, qui sont des régions de mystères tout à fait fascinantes. Hein. Qui est de se dire qu'effectivement, l'arche était en effet toujours présente que les Hébreux, et je vois pas pourquoi d'ailleurs, en effet, essayons de nous poser des questions, moi je suis un simple enquêteur historique pour vous ce soir, hein. Je ne suis pas archéologue, je ne suis pas spécialiste de la question bien sûr, hein. Mais encore une fois toujours dans la même démarche qui me caractérise et que j'ai tenté toujours de faire, y compris dans ces émissions-là et les 26 que j'ai pu faire avec Jean-Claude, où on a quand même pas mal sillonné l'histoire de l'humanité sur les deux dernier millénaire, hein, eh bien, c'est d'essayer d'avoir une approche simple, hein, ou la plus simple possible, pas simplissime, mais simple, hein, de questions qui semblent quand même particulièrement complexes. Donc cette idée numéro 2, ce serait que l'arche, tout simplement, les temps de paix revenant, en 516 avant notre ère, les Hébreux dénichent l'arche où ils l'avaient cachée, hein, probablement dans des souterrains, hein, on en parlera tout à l'heure, très profonds qui se trouvent sous Jérusalem, hein, il faut savoir que, évidemment, sous cette ville, quand même trois fois sainte, plane, hein, pourrions-nous dire, plus qu'une brume de mystère, hein, au travers des siècles si tourmentés qui ont caractérisé l'histoire de Jérusalem, hein, jusqu'aux croisades et bien après, hein, bien sûr. Et l'idée, c'est de se dire qu'effectivement, les Hébreux auraient remis l'arche dans le deuxième temple, le fameux temple de Salomon, hein, et puis qu'elle serait restée là jusqu'au moment où les Romains, si je puis dire, vont en avoir assez d'exercer un protectorat sur la Judée-Samarie, hein, et puis au début de l'ère chrétienne, vont entre guillemets régler le problème, hein, en s'emparant de Jérusalem, en transformant tout ça en une province romaine, hein, et puis vous le savez, tout ça, la destruction complète, hein, c'est 70 hein, de notre ère, hein, et ce sera même encore pire, puisque vous le savez, au IIe siècle, hein, l'empereur Hadrien, pourtant si gentil, empereur de la dynastie des Antonins, quand même, chanté par Marguerite Yourcenar, hein, dans son merveilleux livre que je vous recommande de lire, hein, il a sorti en poche les mémoires d'Adrien, c'est une façon extraordinaire de se replonger dans l'atmosphère du début de l'ère chrétienne, quand même, et Adrien fera raser, hein, complètement le site, si je puis dire, pour construire une ville qui va s'appeler Aelia, hein, Capitolina, si ma mémoire est bonne, hein, et donc une ville romaine entièrement nouvelle, hein, où il ne restera rien, hein, du passé. Vous savez aujourd'hui encore que ce qui reste, hein, du grand temple de Salomon, donc le deuxième, hein, c'est le mur des Lamentations à Jérusalem, hein, ce fameux mur, hein, où le peuple juif prie, hein, bien sûr, puisqu'il s'agit de ce qui reste, hein, du grand temple. le reste du grand temple, hein, le plateau qui est au-dessus, si vous voulez, bah, est occupé par la troisième religion qui s'est installée au-dessus des deux autres, hein, si on peut dire, hein, qui est la religion musulmane. Hein. Il y a deux mosquées fondamentales de la religion musulmane qui sont construites sur le temple, l'ex-temple de Salomon, hein, et quand même, dont un qui commémore quand même ni plus ni moins que le départ, hein, de Mahomet, du prophète Mahomet, vers les cieux, quoi, si je puis dire. Donc c'est vraiment, alors ça n'est pas le premier lieu saint de l'islam, Jérusalem, mais c'est un des lieux saints importants. Hein. C'est quand même la ville vraiment des trois monothéismes, hein, christianisme, judaïsme et musulman, hein, islam. C'est important de le souligner parce que cette trialité, pourrions-nous dire, de Jérusalem, hein, bah, corse évidemment tous les problèmes, surtout qu'au-dessus de tout cela se greffent les problèmes politiques, hein, que vous connaissez, hélas, tout comme moi, toutes et tous. Alors, en 70, Titus, hein, empereur de la dynastie des Vespasiens, Titus qui va régner 2 ans, Titus qui mourra très vite de la peste, probablement. Titus va piller ce temple dont il va s'en glorifier dans son arc de triomphe. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut supposer aussi que l'arche aurait pu faire partie du butin ramené par les Romains dans le temple de Saturne à Rome, et que là, parmi bien d'autres artefacts, hein, et je vous laisse rêver à ce qui pouvait être dans ce temple issu de 2000 ans de pillage fait par la République et par l'Empire romain ensuite, hein, les Visigoths au 5e siècle arrivent, hein, vont piller Rome parmi les premiers, hein, et auraient remporté au cœur de leur empire visigothique, hein, dont on sait aujourd'hui qu'il a eu plusieurs capitales, mais au moins dont une située dans les Pyrénées, hein, et bien au cœur de cet empire visigothique, hein, et bien se seraient trouvés, en effet, les derniers restes, hein, du temple de Salomon. Aucune trace à l'heure actuelle, ça fait partie des grands rêves qui est de se dire au Moyen-Âge qu'est devenu le trésor des Visigoths. Alors il y a eu des bouquins écrits dessus, on en aurait retrouvé une partie en Espagne, mais en tout cas on n'a pas retrouvé les choses qui nous intéressent ce soir, et donc de se demander où sont où aurait pu être caché, hein, si vous voulez, l'arche perdue. Est-ce que l'arche perdue n'aurait pas fait partie à un moment donné du trésor des Cathares, hein, et ensuite du trésor des Templiers, pourquoi pas, hein. Tout ça fait partie de tout un tas de théories qui valent ce qu'elles valent. Il n'y a pas de raison ici de faire un jugement de valeur sur des gens qui ont travaillé sur ces questions-là pendant des années pour écrire des bouquins. Mais néanmoins, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que jusqu'à nouvel ordre, c'est pas par là qu'on l'a retrouvé, la piste de l'arche perdue. Et puis, il y a une piste également qui va nous emmener très loin. Et là, c'est tout à fait étonnant. Étonnant, mais je recommande aux internautes de regarder des vidéos qui ont pu être postées là-dessus, notamment sur Internet, hein, qui est la piste éthiopienne. Une piste en Éthiopie. Autrement dit, dans le sud-est de l'Afrique. Pourquoi ? Alors là, il s'agit d'une église qui s'appelle Sainte-Marie de Sion, qui est à Aksum, en Éthiopie. Et dans cette église, la tradition veut, mais plus que la tradition, puisqu'elle possède un gardien, hein, cette église, veut que, soit conservée, là, depuis la nuit des temps, l'Arche d'Alliance. Pourquoi ? Qu'est-ce que l'Arche vient faire à des milliers de kilomètres du Proche-Orient, hein ? Regardez une carte, regardez où se trouve l'Éthiopie. Regardez où se trouve Jérusalem. Qu'est-ce qui a pu se produire pour que les Hébreux quittant l'Égypte, hein, plutôt que de quitter l'Égypte et de remonter vers la terre promise, seraient descendus en Afrique pour se retrouver en Éthiopie. Bah, c'est toute l'histoire de la fameuse tribu perdue d'Israël, hein, qui est une histoire tout à fait fascinante. Hein. Et là encore, je ne suis pas un spécialiste, si vous voulez, de l'histoire, du peuple hébreu. Hein. Mais il faut savoir que ces fameuses tribus perdues, hein, des juifs d'Éthiopie qui existent vraiment, qui s'appellent les Falachas, hein, eh bien prétendent en effet que c'est à eux, hein, à eux qu'on aurait confié précisément l'arche, et qu'ils l'auraient gardée précieusement, hein, qu'ils l'auraient gardée précieusement pour l'emmener jusqu'à Aksum, hein, dans une église qui s'appelle Sainte-Marie de Sion. Vous avouerez que le nom Sainte-Marie de Sion est assez troublant aussi. On se demande, tiens, c'est quand même curieux, qu'est-ce que Sion vient faire là-dedans? Bon, on sait qu'évidemment il s'agit d'une référence importante biblique, mais enfin quand même, c'est assez intéressant, je trouve. Et cette église, jusqu'à aujourd'hui, hein, possède un gardien, qui est renouvelé, le gardien est élu à vie, hein, et une fois qu'il est décédé, il est remplacé par un autre, hein, et qui empêche quiconque, hein, de pénétrer à l'intérieur, hein, de cette église, puisqu'à l'intérieur se trouverait effectivement la véritable arche. Alors, la plupart des spécialistes de la question contestent tout cela en disant que c'est sur le plan chronologique par rapport à l'histoire des Falachas incohérent, hein, et quelque part ce serait faux. En tout cas, ce qu'on explique, c'est que l'arche aurait été dérobée par Ménélique Ier, hein, qui était le fils légitime de Salomon et de la reine Makeda de Saba, suite à une visite à Jérusalem. C'est donc ce qui expliquerait, en effet, la présence de l'arche si loin des lieux dont on a parlé depuis maintenant presque trois quarts d'heure. Alors, également, important aussi de le noter, l'arche est évoquée, hein, tout simplement, aussi par la religion musulmane, qui la reconnaît comme étant, effectivement, un objet tout à fait sacré. Alors, à présent, et pour les 15 minutes qui nous restent, essayons de faire peut-être un peu le point sur ce que l'on sait, hein, en fait, en quelque sorte, de cette fameuse arche d'alliance dont je vous parle maintenant depuis un certain nombre de minutes ce soir. Alors, d'une part, ce coffre aurait été d'une part fabriqué dans le Sinaï, dans le désert, pendant la fameuse traversée, hein, du Sinaï par les Hébreux. On est quasiment sûr aussi qu'il aurait renfermé les tables de la loi, c'est-à-dire ce qu'on appelle le décalogue. Hein, le décalogue, hein, donc qui renferme le fameux 10 commandements, hein, c'est-à-dire tu ne tueras point, tu honoreras ton père et ta mère, etc., etc., hein, les fameux 10 commandements que l'on retrouve dans la Bible. Hein. Également, en ce qui concerne maintenant les pistes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les plus sérieuses, hein, au sujet de l'arche. Alors, d'une part, on pense, à un moment donné, dans les années 30, une femme archéologue, hein, une sorte de tomb raider, si on peut dire, avant la lettre, en 1931, là, ça ressemble au parfum, si je puis dire, des avant-scènes, vous savez, des films de Spielberg, donc d'Indiana Jones, une dame qui s'appelle Antonia Fritterer, hein, dit avoir trouvé dans le mont des Beaux, hein, une galerie, donc le fameux mont des Beaux, le fameux mont des 10 commandements, hein, aurait trouvé une caverne et une galerie dans lequel effectivement elle aurait trouvé une porte, dit-elle, murée, sur laquelle était gravée une inscription en hébreu signifiant ici repose l'arche dorée. Hein, mais la femme exploratrice n'a pas eu la possibilité de poursuivre ses recherches, nous dit-on. Donc voilà pour mon Nebo. En 61, c'est dans un mont voisin du mont Nebo que Tom Grotzer, Donc Tom Crotzer, un autre archéologue amateur, un Américain, en 1981, pardon, eh bien prétendra avoir découvert un coffre doré qu'il aurait pris en photo, lui. Et là aussi, rapidement, les expertises vont montrer qu'en fait, il s'agissait évidemment d'un coup monté, que cette photographie représentait un objet qui était tout à fait récent et qui n'avait rien à voir avec l'arche. Quatrième hypothèse, et c'est là que peut-être la piste, et pour répondre effectivement à ta question de tout à l'heure, Cédric, serait la piste peut-être la plus sérieuse. Tout simplement, en 1978, un anesthésiste américain du nom de Ronald Wyatt, qui pratiquait l'archéologie en amateur sur des sites bibliques, se trouva à Jérusalem et visita ce qu'on appelle la tombe du jardin. Alors, cette tombe du jardin, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, cette tombe du jardin, c'est un caveau implanté au nord du rempart de la ville et considéré par certains comme la sépulture de Jésus-Christ. Alors, en arpentant le jardin qui l'entourait, il a eu soudain l'intuition que l'arche pouvait être enfouie quelque part, sous ce lieu assimilé donc au lieu du calvaire. Alors, il va entreprendre des fouilles, et chose intéressante, bien loin de tomber sur des artefacts christiques donc du 1er siècle de notre ère, il va tomber sur autre chose. Ce qui est assez intéressant, car souvent en archéologie, c'est comme ça que ça se passe. On cherche quelque chose, et puis finalement on tombe sur autre chose. Ce qui donc, quelque part, pourrait accréditer peut-être la sincérité de l'archéologue en question. Et c'est le 6 février 1982 qu'il décèle l'entrée d'une étroite, je cite, « galerie naturelle », qui va le mener, effectivement, à un objet brillant. Une substance poudreuse qui reposait, dit-il, sur le couvercle brisé d'un coffre de pierre. Cette poussière semblait provenir du plafond, une fissure courait dans la voûte, je cite, juste au-dessus de la cuve. Wyatt devait vérifier plus tard qu'elle communiquait avec la surface du sol. Alors, on est à la limite du surnaturel, puisque il prétend, toujours cette même personne, évidemment, qu'il a été obligé de rebrousser chemin, étant donné la porosité, pourrions-nous dire, de la caverne, et que, mes amis, nous y revoilà, dans le drame, si je puis dire, politique de toute cette affaire. Le site a été fermé par les autorités en 2007, et le fameux Ron Wyatt, évidemment, au milieu de l'incrédulité générale, puisque, en gros, personne n'a voulu vraiment accréditer ce qu'il a cru voir, il meurt en 1999, les fouilles sont interrompues à ce moment-là. Alors, est-ce que là, mes amis, nous n'aurions pas la piste peut-être la plus intéressante? Pourquoi? Parce que, depuis le début de cette émission, j'ai essayé de trouver quelque chose de simple, si vous voulez, et de vous montrer, d'essayer de pister un peu notre arche, dans la tradition écrite, en tout cas la plus, pas forcément la plus fiable, mais en tout cas la plus linéaire que l'on connaisse, qui est l'Ancien Testament, et qui nous dit quand même de façon à peu près linéarisée, que on a, si vous voulez, une façon de pister l'arche, au moins jusqu'au premier temple. Et puis que, quand ce premier temple est menacé au 6e siècle, parce qu'il va être détruit avant notre ère, les Hébreux vont le cacher. Alors, est-ce que la fameuse tombe du jardin, en cherchant les restes supposés du Christ, eh bien, est-ce que Ron Wyatt ne serait pas tombé, tout simplement, en effet, sur cette cache ? Parce qu'en effet, après, vous l'avez bien compris, c'est assez simple de le vérifier, dans ce qu'on vient de dire ensemble, les pistes divergent. Il y a plusieurs pistes différentes. Elle a été remise dans le temple de Salomon, d'autres disent que non. Ensuite, c'est les Romains qui s'en seraient emparés. Plusieurs pistes font que, en effet, après, on perd. on perd sa trace. Peut-être, que eh bien, c'est peut-être la piste la plus sérieuse à reprendre un jour, si, bien sûr, la situation locale pouvait le permettre. Hein, car je vous redis que toute fouille archéologique de cet ordre est extrêmement sensible, vous l'aurez bien compris, vu la situation dans la ville de Jérusalem. Alors il reste l'ultime piste, hein, qui est de dire que l'arche, en fait, tout simplement, serait restée en Égypte. Alors ça, c'est évidemment la piste qui va nous renvoyer d'ailleurs à la question du début de cette émission posée par Ingrid, hein, la piste dite égyptienne, hein, qui raconte que l'arche, l'arche aurait tout simplement été toujours cachée quelque part, en effet, mais en Égypte. En Égypte, donc au fin fond d'un temple, donc bien enfoui dans les sables du désert. Alors Ingrid, et on va se diriger vers la conclusion pour ta question. En effet, cette question de se dire, l'arche, finalement, Indiana Jones l'a retrouvée, et pourquoi est-ce que Indiana Jones restituer l'arche au gouvernement des États-Unis, d'une part, hein, et que cette arche va être entreposée dans un grand hangar, ou dans le dernier Indiana Jones, Ingrid, si tu l'as vu aussi, tu auras remarqué qu'il y avait aussi les restes d'un prétendu crash qui aurait eu lieu, paraît-il, un certain jour de 1947 à Roswell. Hein, donc je te renvoie évidemment à toute l'imaginaire spielbérien que je crois quand même, quand on parle de l'arche perdue, beaucoup d'entre nous auront en tête ce soir. Alors pourquoi parce que je pense que dans le scénario du film de Steven Spielberg, on a retenu l'idée d'une arme. C'est-à-dire que il ne faut pas oublier que dans les aventures de l'arche perdue, c'est la course entre les gentils, si je puis dire, américains autour de Harrison Ford, hein, et de Indiana Jones, contre les abominables nazis, les suppôts de Hitler, qui veulent eux récupérer l'arche pour en faire tout simplement une arme, et disons une arme de destruction massive, puisque en fait. On laisse à penser là-dedans que l'arche en fait serait une arme, donc projetant soit des faisceaux radioactifs, hein, ou quelque chose de ce genre. Alors on peut aussi imaginer, hein, on peut imaginer évidemment beaucoup de choses, c'est que cette arche aussi aurait pu être tout simplement un météore. Hein, un météore retrouvé dans le désert par les Hébreux, qui aurait eu effectivement un certain nombre de pouvoirs divers et variés, hein, et qui effectivement expliquerait peut-être des phénomènes magnétiques anodins, hein, que celui-ci aurait produit. Pourquoi pas ? Pourquoi pas la pierre noire, hein, de la Kaaba, donc de la Mecque, hein, qui est vénérée, on le sait bien, est un météore aussi, hein. Donc c'est pas du tout ridicule que d'imaginer, hein, aussi une piste de ce genre. Hein. Donc évidemment, Ingrid, ça n'est pas la véritable arche qui est dans un hangar aux États-Unis. Hein, c'est évidemment une arche imaginée dans un scénario que a voulu constituer Spielberg, hein, pour son histoire des aventuriers de l'arche perdue. Mais en tout cas, l'idée de l'entrepôt anonyme avec d'autres artefacts mystérieux du monde, récupérés dans le monde, je pense que c'est vraiment lié à l'aspect arme secrète, je pense que c'est ça que on a voulu montrer dans le film. Alors qu'il reste maintenant quelques petites minutes, je vous propose, hein, tout simplement la fameuse arche en question, hein, pouvait rassembler dans son dans son coffre, pour rien nous dire. Hein. Alors, effectivement, en premier lieu, bien sûr, on a ce qui représente la parole de Dieu, donc les 10 commandements, hein, ça, la table de la loi, hein, les tables de la loi. Aussi savoir que l'arche aurait contenu également la manne, ce qu'on appelle la manne. Alors qu'est-ce que c'est que la manne? Ben, c'est quelque chose de tout à fait mystérieux. Hein. La manne est considérée comme quelque chose qui est tombé, personne ne savait ce que c'était. Les Hébreux disaient, qu'est-ce que cette chose-là? Ce qui se dit, manne où? Et faute de pouvoir répondre, on a appelé cette chose du nom de la manna, qu'est-ce que c'est? Alors cette manne, bon, bah, c'est en gros, on peut l'assimiler à une aide, hein, une aide envoyée par le ciel, hein, directement au peuple hébreu. Troisième chose qu'elle aurait rassemblée, et je vais répondre tout de suite à ta question, Cédric, une question très intéressante d'ailleurs, qui je pense va nous permettre d'avoir l'autorisation de dépasser de quelques secondes l'heure impartie. Troisième chose qu'elle aurait rassemblée, c'est le bâton d'Aaron, hein, qui est un souvenir de la révolte du peuple, hein, contre, bien sûr, l'oppression même, hein, qu'avait subi les Hébreux, hein, un symbole. Donc en fait, cette arche est en quelque sorte, hein, une sorte de trésor, en gros, hein, de tous les symboles qui déterminent l'existence même du peuple hébreu. Et pour conclure, ben on va conclure avec ta question, Cédric. Est-ce que l'âne R2, en allemand, je pense, je vois très bien de quoi tu parles, a cherché cette arche? Alors l'âne R2, c'est cet organisme, effectivement lié à l'Allemagne nazie, aux hitlériens, notamment, si ma mémoire est bonne, dirigé par Heinrich Himmler, c'est-à-dire par les SS, et dont le but était de justifier toutes les théories les plus folles du nouvel ordre SS, de l'ordre noir qu'a voulu créer Himmler, hein, et qui était effectivement, de par le monde, d'organiser des fouilles archéologiques pour retrouver, en effet, tout un tas d'artefacts. Alors, est-ce que l'arche en fait partie? Franchement, je ne sais pas. Je sais que le Graal, hein, la question du Saint Graal, c'est-à-dire la coupe qui aurait recueilli le sang du Christ, en faisait partie. Hein. Donc je ne suis pas sûr pour l'Arche d'Alliance, évidemment, on est tenté d'y penser à cause, évidemment, d'Indiana Jones et des aventuriers de l'Arche perdue, mais je pense que l'âne R2 était davantage, moi aussi je m'excuse pour la prononciation d'ailleurs, hein, était davantage concentré sur la recherche d'artefacts, pourrions-nous dire, liés au christianisme, quelque part. Il ne faut pas oublier que l'arche, c'est quand même les Hébreux, c'est quand même l'Ancien Testament, et que bon, le peuple hébreu, les Juifs étaient quand même voués à l'anéantissement le monde nazi. Donc c'est une question intéressante parce que c'est une question ouverte, Cédric, qui mérite de jeter un petit coup d'œil sur les sources pour voir si ça faisait partie. Je reste assez centré sur les délires templio-wagnéro récupérés par les nazis. On sait qu'il y a eu des fouilles et des recherches faites dans les Pyrénées, notamment pour essayer de retrouver le château du Saint Graal et des choses comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça, et je conclus là-dessus, car nous sommes déjà à 1 minute 1, que je propose, et je crois que tu étais d'accord, Cédric, de continuer notre parcours, hein, avec la prochaine émission, qui n'aura pas lieu le 24 décembre, puisque bah, c'est le réveillon de Noël, et je pense que ce soir-là, toutes et tous, on sera occupés à autre chose en famille, hein, mais la prochaine sera le 28 janvier. Hein, le jeudi 28 janvier, hein, et je vous propose cette fois-ci de continuer un peu dans ces artefacts symbolico-bibliques, pourrions-nous dire, hein, à la recherche cette fois-ci de la coupe du Saint Graal, hein. Je crois que c'est pas mal comme idée de sujet. Sujet beaucoup plus difficile, parce que si sur l'Arche d'Alliance on a beaucoup de choses, j'ai déjà commencé à travailler un peu l'émission sur le Graal, c'est assez complexe, et ce qui sera peut-être une occasion, Cédric, de repartir sur ta question concernant l'Anneverde et la façon dont, effectivement, d'une façon épouvantable, l'ordre SS durant l'Allemagne nazie a tenté là aussi de récupérer ce type de symbole. Voilà, ben je vous remercie toutes et tous, chers amis, pour votre attention. Cette émission fera l'objet d'un podcast que vous allez pouvoir écouter, réécouter, j'espère, à satiété. J'ai eu grand plaisir à faire cette émission. Merci Cédric pour tes deux questions. Merci également pour la question d'Ingrid aussi. Hein. Et donc, je vous dis à très bientôt. C'était Histoire d'un soir avec Olivier Burette sur la web radio Terrazen. À bientôt.